France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les Lillois sacrés champions de France de foot après 10 ans de disette. Une victoire sur le fil avec un point d'avance seulement sur le PSG. La joie des nordistes, l'émotion de l'entraîneur, on voit tout ça Agnès après les autres titres.
Et après le drame en Italie, question sur la sécurité des téléphériques en France. Le tollé international après l'interpellation spectaculaire d'un opposant bélarus. Où en est-on du lundi de Pentecôte travaillé en France 17 ans après ? Reportage à Gaza où les affrontements ont anéanti les espoirs de vaccination contre le Covid. Et puis en France, le plaisir retrouvé de chiller dans les brocantes.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50.
Et oui, Nicolas, alors certes, on n'a pas gagné. On n'est que deuxième, mais ça faisait 30 ans que la France n'avait pas atteint ce niveau de la compétition à l'Eurovision grâce à elle, à sa voix, à ses yeux qui brillent. L'incandescente Barbara Pravi sera avec nous en direct à 7h50 et j'en suis très heureuse.
À tout à l'heure, Léa, on est très heureux aussi. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le conseiller régional d'Île-de-France, ancien candidat PS à l'élection présidentielle de 2017. J'ai nommé Benoît Hamon, il dialoguera avec vous au standard d'Inter. 01 45 24 7000.
France Inter.
La fête a duré une bonne partie de la nuit dans les rues de Lille, malgré le couvre-feu. Épilogue d'une saison qui a tenu en haleine les fans de foot jusqu'à la dernière minute de la dernière journée de Ligue 1. En s'imposant à Angers 2-1, les Lillois remportent le 4e titre de leur histoire, au nez et à la barbe des Parisiens, vainqueur à Brest 2-0, mais qui reste à un point des nordistes au classement général. Le LOSC, champion de France, récit d'une folle soirée avec Bastien Ducrot.
10 ans après leur titre, les Lillois montent sur le trône de la Ligue 1. David, maillot sur le dos, a du mal à y croire.
On gagne cette année, un point d'écart juste devant le PSG, c'est super. On est content pour les joueurs, on est content pour les Lillois, c'est merveilleux.
Il suffisait d'une victoire face à Angers pour assurer le sacre. Et après 9 minutes, l'attaquant canadien Jonathan David ouvre le score. À la mi-temps, le LOSC mène déjà 2-0 après le deuxième but de Yilmaz. Martin, dans son appartement avec ses amis, est très confiant.
On se dit à 2-0, plus rien peut arriver. Donc là, franchement, on y croit. Et si jamais ça se confirme, je pense qu'on va aller à la DS. Se retrouver avec tous les potes. Moi, j'ai mis un petit caleçon du LOSC, je t'avoue. Et je vais le montrer comme ça. Voilà, on va fêter ça,
Et Martin finira effectivement en caleçon dans la fontaine de la Grand Place de Lille avec des milliers d'autres supporters. Un vent de folie souffle, le couvre-feu est oublié à coups de feux d'artifice. De concerts, de klaxons. Les supporters étaient parfois venus de loin, comme Thomas.
C'est dingue. Moi, je suis de Toulouse, tu vois. Donc hier, on a gagné la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. On a pris la 5e étoile. Là, je suis à Lille avec mes cousins. La finale de Lille, gros. Et c'est la folie, gros. Je suis pour tout, tu vois, le Nord et le Sud rassemblés.
Je suis heureux, je suis content, j'ai qu'une hâte, c'est que demain, on se retrouve tous ensemble avec les joueurs pour fêter ça.
Et le vœu d'Antoine et de milliers d'autres Lillois sera exaucé avec une parade dans les rues de Lille ce lundi à partir de 16h30.
Le Nord, le Sud, reportage de Bastien Ducrot. Une fête qui a donné lieu à quelques débordements. 7 personnes ont été interpellées et un homme était particulièrement heureux hier soir, levant les bras au coup de sifflet final, délivrance d'une saison en tension. Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, qui a tenu à remercier l'équipe derrière l'équipe, au micro de Jean-Pierre Blimont.
Être champion face au PSG, face à Lyon, face à Monaco, c'est une très grande performance. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on n'est pas un petit champion. Mes joueurs ont fait un grand championnat, 83 points. C'est le record absolu de l'histoire du club. On n'a pas toujours été très beau, mais on a su être efficace et on a joué avec nos qualités, notre cœur, notre générosité. Ce groupe qui a été bâti sur 2-3 saisons a fait un travail exceptionnel avec un staff exceptionnel, un adjoint fidèle, Thierry Olexiac, qui arrive à me canaliser de temps en temps. Et puis aussi tous les salariés, l'équipe qu'il y a derrière l'équipe, et croyez-moi, on a beaucoup de monde. Ce sont les personnes de l'ombre. Je veux leur dédier ce titre.
Lille, le PSG et Monaco disputeront donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Lyon et Marseille, la Ligue Europa. En bas du tableau, Nîmes et Dijon sont relégués en Ligue 2. Troyes et Clermont promus en Ligue 1. Et puis Nantes, 18e de Ligue 1, va affronter Toulouse jeudi à Toulouse et dimanche à la Beaujoire pour tenter de se maintenir. Sinon, c'est Toulouse qui montera en Ligue 1.
Il est 7h05, Agnès. L'enquête sur l'accident de téléphérique hier en Italie.
Enquête ouverte par le parquet de Milan pour homicide involontaire et blessure par négligence. 14 14 personnes sont mortes et un enfant de 5 ans est très grièvement blessé. Après la chute d'une télécabine hier à Stresa, une station balnéaire du nord de l'Italie sur les rives du lac Majeur, le téléphérique avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux d'entretien. Les câbles avaient été de nouveau vérifiés il y a 6 mois. Pourtant, selon les premiers éléments, c'est bien un câble qui aurait lâché. Ce type d'accident est-il possible en France ? Éléments de réponse avec Mathieu de Chavannes, PDG de la compagnie du Mont-Blanc qui gère une dizaine de téléphériques dans la vallée de Chamonix et à Megève.
Vous avez deux types de câbles. Vous avez un câble porteur qui supporte la cabine et vous avez un câble tracteur qui permet de passer la puissance. Et c'est ce câble tracteur qui a apparemment lâché, ce qui est très improbable en France. Soit vous les, ce qu'on appelle les épissurer, c'est-à-dire que vous les tressez entre eux. Nous, c'est ce qu'on, tous nos appareils sont de la sorte. Et là, la rupture est impossible. Ou vous mettez un culot, et là c'est une pièce métallique, et c'était le cas en Italie, et cette pièce a lâché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ces culots, c'est des technologies qui sont anciennes, mais elles sont contrôlées tous les 2 ans. C'est les services de l'État qui sont indépendants, qui contrôlent ça. Donc vous détectez une faiblesse. On vous oblige à changer cette pièce immédiatement. Et en plus, s'il vient à lâcher, vous devez avoir des freins de chariot qui tombent immédiatement derrière. Et là, manifestement, ils n'ont pas tombé. Donc comme souvent dans des accidents, c'est la conjonction de pas mal d'éléments qui ont conduit à cette catastrophe. C'est incompréhensible.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona, et nous serons en direct de Stresa en Italie dans le journal de 8h. Le vol FR4973 de la compagnie Ryanair entre Athènes et Vilnius a finalement atterri en Lituanie en début de soirée hier, mais sans le journaliste Roman Protasevich, arrêté lors d'une escale forcée à Minsk. Un avion de chasse sur ordre du président Loukachenko a en effet contraint l'avion à atterrir alors qu'il traversait l'espace aérien du Bélarus. Alors qui est ce journaliste interpellé et que risque-t-il ? Élément de réponse avec Claude Bruyot.
Roman Protasevich faisait partie d'une liste de personnes recherchées par les autorités du Bélarus pour avoir, selon elles, en tant que journaliste, via sa chaîne Nexta, favorisé les manifestations hostiles à Alexandre Loukachenko en facilitant leur coordination. Après sa réélection d'août 2020, considérée par l'Union européenne notamment comme frauduleuse, le président du Bélarus n'a jamais cessé depuis de faire la chasse à ses opposants où qu'ils soient. Roman Protasevich, qui bénéficiait pourtant de l'asile politique de la part de la Lituanie, faisait comme d'autres l'objet d'une demande formelle d'extradition de la part des autorités de Minsk. L'avion du journaliste, dérouté sur ordre de Loukachenko, a même été escorté par un MiG-29 de l'armée du Bélarus. Preuve s'il en est des moyens mis en œuvre par l'ultra-autoritaire président au pouvoir depuis 27 ans, pour parvenir à ses fins. Selon des passagers témoins de l'arrestation de Roman Protasevich, celui-ci leur aurait déclaré peu avant d'être interpellé qu'il pensait risquer la peine de mort une fois aux mains des hommes de Loukachenko. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et la communauté internationale a vivement réagi. Les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne demandent la libération immédiate du journaliste. Le dossier Bélarus sera d'ailleurs évoqué aujourd'hui lors du sommet européen qui démarre à Bruxelles. Retour en France en ce lundi de Pentecôte, synonyme depuis 2004 de journée de solidarité. Une mesure entrée en vigueur un an après la canicule qui avait coûté la vie à 15 000 personnes âgées. Ce jour férié travaillé devait servir au financement de la dépendance. Dans les faits, Fabien Cazot, cette journée reste fériée pour de nombreux salariés, mais continue de rapporter de l'argent à l'État.
Prenant la forme d'un lundi de Pentecôte travaillé, ou plus souvent de quelques heures en plus pendant l'année, voire d'une RTT annulée, la journée de solidarité rapporte chaque année environ 3 milliards d'euros aux comptes sociaux. Une somme issue des contributions versées par les employeurs en échange de cette journée de travail supplémentaire quand ils n'en font pas cadeau aux salariés, 0,3% de la masse salariale. Les retraités sont également mis à contribution avec une ponction de 0,3% sur leur pension. Une partie des sommes, quasiment 1 milliard d'euros, est reversée aux départements. Ils financent notamment l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore la prestation de compensation du handicap. Un autre milliard est fléché vers les établissements et services médico-sociaux destinés aux personnes âgées.
Et aujourd'hui, c'est une autre crise sanitaire qui touche la France, l'épidémie de Covid, avec une amélioration qui se poursuit. Moins de 20 000 malades hospitalisés, 3 515 en réanimation et plus de 23 millions de Français qui ont reçu au moins une dose de vaccin alors que le Moderna arrive en pharmacie cette semaine. Une campagne de vaccination quasiment à l'arrêt dans la bande de Gaza où les affrontements jusqu'à vendredi dernier ont endommagé tous les services publics, sans épargner les hôpitaux. Reportage à Gaza, signé Frédéric Mettezo.
Le docteur Abdoulatif Alaj brandit une petite boîte écrite en russe.
C'est le vaccin Spoutnik donné à la population ici, mais maintenant, il est inutilisable.
Nous sommes à la clinique Al-Ashawa. C'est l'un des principaux centres de vaccination dans le nord de la bande de Gaza, soufflé par une frappe à proximité.
Le centre est complètement démoli, il faut enlever tous les morceaux du bâtiment bombardé. Il n'y a aucune raison au monde d'attaquer un centre humanitaire comme celui-là.
Scène similaire au centre de Gazaville. Le ministère de la Santé et la clinique Al-Rimal sont également endommagés. C'était le seul laboratoire public qui réalisait des tests Covid. Tatiana Chiarella, de Médecins sans frontières, craint une reprise de l'épidémie.
C'est compliqué parce qu'avec la situation des guerres et tout ça, on a tous oublié le virus, mais il est toujours là. Malheureusement, ça devient pire.
Terrible symbole, le chef de l'unité Covid du plus grand hôpital de Gaza a été tué avec la majorité de sa famille dans un bombardement. Gaza, Frédéric Mettezo, France Inter.
Enfin, en France, c'était le premier week-end prolongé donc pour beaucoup d'entre vous avec la possibilité de boire un verre en terrasse ou d'aller au cinéma en cas de mauvaise météo, d'aller au musée aussi ou au théâtre. Et puis depuis le 19 mai, il est aussi possible de se rendre dans des vide-greniers ou des brocantes, chiner, fouiller pour trouver la perle rare, un plaisir qui avait manqué à de nombreux passionnés. À Villerville, sur la côte fleurie, la brocante de la Pentecôte se termine ce soir et c'est déjà un véritable succès, Léa Dubost.
L'odeur des vieux meubles, le bruit de la vaisselle ancienne, Nathalie se replonge dans l'ambiance de la brocante. Elle ne sait plus où donner de la tête.
J'ai trouvé une cage à oiseaux, un tableau. Non, mais il y a plein de choses sympas. Je ne sais pas ce qu'on va trouver. C'est comme Noël, quoi.
Ce moment, elle l'attendait depuis longtemps. Cette passionnée faisait des brocantes chaque week-end avant le confinement.
Là, c'est la folie. On a fait 40 minutes de route juste pour venir parce que toutes les autres brocantes du coin étaient annulées. Donc, non, ravie que ça rouvre.
Un peu plus loin, Marie-Hélène, arrivée de Paris, retrouve le plaisir de négocier, mais avec son mari d'abord.
Je la prends en photo pour demander si j'ai l'autorisation de l'acheter. C'est une pince à asperges ou à escargots en argent 18e. Mais c'est superbe, cette brocante. Je suis contente que ça soit reparti.
Les passionnés sont aux anges.
Ça, c'est 10 euros, vous voyez.
À l'image de Jean-Paul, brocanteur.
De retrouver les clients, c'est une très grande bouffée d'oxygène. On reprend vie. Malgré les difficultés de notre profession, parce que Internet nous fait beaucoup de mal. On a une clientèle qui est beaucoup plus jeune.
Ah oui, on a énormément de monde, énormément de passages.
Catherine Philippov, conseillère municipale de Villerville en charge des animations.
Les gens achètent des choses anciennes pour leurs enfants. Il y a vraiment un retour à je réutilise, je ne jette plus. Détourne l'objet pour toujours le faire vivre dans la maison.
Un retour aux choses simples et à la vie normale.
Reportage de Léa Dubost. Et donc cette brocante à Villerville, c'est jusqu'à 18h ce soir.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui sur les méthodes pour lutter contre le harcèlement sexuel en entreprise.